Voici une question dont la réponse est importante à connaître pour les croyants comme pour les non-croyants. Qui sont les ennemis de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui va ouvrir nos yeux aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, quel bon enseignement on reçoit de la Bible, de la parole de Dieu jour après jour. C'est tellement enrichissant pour ma vie. Et j'ose espérer que ça l'est aussi pour la vôtre. Voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien est appelé à combattre spirituellement? Comment pouvons-nous découvrir qui sont les ennemis de Dieu? Est-ce que c'est vrai que Jésus revient bientôt? Est-ce qu'on est responsable de présenter l'Évangile à notre famille? Qui est-ce qui va comparaître devant le tribunal de Christ? Est-ce que c'est pour tout le monde que Jésus est mort sur la croix? Est-ce qu'il y a de la place pour tous les croyants dans l'œuvre de Dieu? Demeurez avec nous, on est sur le point d'entendre tout un enseignement de la parole de Dieu par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur, c'est tellement bon d'être dans ta présence. On te demande de nous l'accorder aujourd'hui. On puisse vraiment goûter que tu es là. Savoir, non seulement le savoir, mais goûter que tu es là. Parle à nos cœurs, viens nous instruire, mon Dieu. On est à l'écoute et on désire ta présence. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que différentes familles, des gens de différents métiers, et les habitants de différentes villes se firent assigner un segment des murs de Jérusalem pour les reconstruire. Nous avons examiné ce que pouvaient représenter différentes portes de la ville. Entre autres, la vieille porte rappelle que c'est en Jésus-Christ que nous trouvons du repos pour nos âmes. La porte de la vallée nous apprend que Dieu nous enseigne par des épreuves et des humiliations. La porte du fumier est un symbole de la confession honnête et sincère à la suite de laquelle nous sommes purifiés de nos péchés. La porte de la source nous indique que nous devons être une source de bénédiction pour les autres. La porte des eaux symbolise la parole de Dieu, son instrument pour nous sanctifier. Certaines personnes ne répondent pas à l'appel de Dieu. Cela peut être dû à l'orgueil. De plus, Dieu note ce que nous faisons pour lui. Cela se voit, car certains noms sont mentionnés dans les textes bibliques. Il prend aussi note de ceux qui ne répondent pas à son appel, ceux qui refusent son invitation. Aujourd'hui, nous complétons notre tour des murs de la ville. Nous sommes rendus à la porte des chevaux. Débutons notre lecture, chers amis. Néhémie, chapitre 3, verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. La porte des chevaux. Le cheval était un animal monté par un guerrier. Dans le livre de Zacharie, chapitre 1, verset 8, il nous parle d'un cheval roux monté par un homme. Derrière lui, il y avait des chevaux roux, fauves et blancs. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 4, nous lisons, « Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et qu'une grande épée lui fût donnée. » Ces chevaux symbolisent des puissances qui font la guerre. Le chrétien est un soldat appelé à combattre. Le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem monté sur un âne. Il n'a pas fait cela pour démontrer son humilité. C'était l'animal que montaient les rois. À cette époque, l'âne n'était pas considéré un animal humble. Les hommes ne montaient des chevaux qu'en temps de guerre. Le cheval était un symbole de guerre. La porte des chevaux rappelle que le croyant est un soldat de Jésus-Christ. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, il nous enseigne que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette vérité profonde se trouve au début de l'Épître. Dans la deuxième partie, nous lisons « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Nos têtes sont dans les lieux célestes, mais nos pieds sont sur terre, là où nous devons marcher. De plus, Éphésiens chapitre 6, verset 11, nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous participons à une véritable guerre spirituelle, chers amis. Le texte poursuit avec le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas contre des forces humaines, mais contre des puissances spirituelles. Si des personnes s'intéressent à la parole de Dieu, d'autres en sont les adversaires. C'était vrai aussi au temps de Paul, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Lorsque nous partageons la bonne nouvelle, nous découvrons qui sont les ennemis de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte qui sont les ennemis de Dieu jusqu'au jour où vous commencez à évangéliser ou à partager cette bonne nouvelle. Ce sont ceux qui devraient proclamer la parole de Dieu qui s'opposent bien souvent à vous. Ces adversaires se disent chrétiens. Et vous penseriez que s'ils n'ont rien à dire, qu'ils se tairaient. Mais ils critiquent les chrétiens qui désirent proclamer la parole. Parce que nous avons de nombreux adversaires, il faut revêtir l'armure de Dieu. Paul nous invite aussi à prendre l'épée de l'Esprit. Cette épée est la parole de Dieu. C'est la seule arme que nous désirons utiliser. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3, Paul a dit à un jeune prédicateur, « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Ce verset nous indique que les croyants ont à livrer un combat. Si vous n'êtes pas en combat aujourd'hui, vous ne prenez pas position pour le Seigneur. En effet, des luttes chaudes sont livrées à de nombreuses places. Si vous prenez position pour le Seigneur, quelqu'un s'élèvera contre vous. Alors même, de nombreux croyants souffrent en combattant. Écoutez ce texte tiré de l'Évangile selon Matthieu. Verset 34 du 10e chapitre. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » Retournons à notre texte, Néhémie chapitre 3, verset 29. « Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. » La porte de l'Orient, c'est la porte de l'attente fiévreuse et de l'excitation. Cette porte se trouvait du côté est de la ville. C'était la première porte à se faire ouvrir le matin. Dans la ville moderne de Jérusalem, cette porte n'existe plus. Elle a été murée. Certains pensent que le Seigneur Jésus entrera par cette porte lorsqu'il reviendra sur terre. Possible, mais les Écritures ne le confirment pas. Elles indiquent plutôt qu'il entrera par la porte d'or, mais c'est une porte du temple et non des murs de la ville. Le Seigneur Jésus revient, chers amis. Même si cette porte est murée aujourd'hui, c'était la première porte ouverte tous les matins, car elle faisait face au soleil levant. Pendant la nuit, une sentinelle faisait sa ronde sur les murailles. Tôt le matin, il s'arrêtait à la porte de l'Orient et il surveillait pour les premiers signes du lever du soleil. Il se peut qu'il y ait eu des personnes dans la ville qui craignaient qu'un ennemi nocturne rôde autour de la ville. Elles éprouvaient de la difficulté à dormir. Elles faisaient peut-être les 100 pas pendant la nuit. Finalement, elle demanderait à la sentinelle si la nuit achevait. Le soldat répondrait « C'est encore noir, mais le matin sera là bientôt. » Bientôt, les premières lueurs apparaîtraient dans le ciel. La sentinelle donnerait le signal d'ouvrir la porte et dirait « Le soleil se lève et je ne vois pas d'ennemis. » La ville se sentira alors soulagée. Nous, les croyants, devrions nous tenir à la porte de l'Orient, car une lueur se pointe à l'horizon. Le soleil est sur le point de se lever. Avant que le soleil ne se lève, l'étoile du matin apparaîtra. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Cet événement est l'enlèvement de l'Église, de tous les véritables croyants. Les Écritures enseignent que Jésus-Christ viendra chercher les siens avant la levée du soleil. Les premières lueurs sont visibles aujourd'hui, mais rien ne nous permet de prévoir la date exacte du retour de Jésus-Christ. Le prochain grand événement sera l'enlèvement de l'Église. Nous devrions nous rassembler à la porte de l'Orient, mes amis, pendant ces jours sombres. Il est réconfortant de savoir qu'une lueur brille à l'horizon et que nous avons un espoir. Verset 30. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanom, le sixième fils de Tsalaph, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Le sixième fils de Tsalaph a travaillé à la muraille. Les cinq frères aînés semblent avoir manqué à l'appel. Le fait que nos aînés ne suivent pas le Seigneur, ne s'impliquent pas dans l'œuvre, ne nous autorise pas à en faire autant. Et si nous le faisons, cela ne justifie pas notre décision. Nous sommes responsables de présenter l'Évangile à notre famille. Il est intéressant de noter que Meshulam n'a travaillé que vis-à-vis sa chambre où il habitait. Mes amis, il vous est peut-être impossible de témoigner au loin ou dans votre quartier, mais vous pouvez tous témoigner aux membres de votre famille. Vous pouvez présenter l'Évangile à votre famille. Il est merveilleux de faire partie d'une famille sauvée, et c'est votre responsabilité d'y proclamer la bonne nouvelle. Un jour, un homme dit au pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, « Je pense que je ne devrais pas témoigner à ma famille. » Le pasteur ne fut pas d'accord avec cela. C'était sa responsabilité de voir à ce qu'ils entendent l'Évangile. Ensuite, ce sera entre eux et Dieu que sera prise la décision. Meshulam a réparé seulement la partie de la muraille vis-à-vis sa chambre. Il semble que ce soit tout ce que le Seigneur lui ait demandé. Il l'a fait, et Dieu l'a pris en note. Verset 31. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nitiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. La porte de Mifkad. Qu'est-ce que cette porte? Mifkad signifie « registre ». Lorsqu'un étranger venait à Jérusalem, il devait avoir un visa, mais pas le genre de visa que nous avons aujourd'hui. Il devait passer par cette porte et s'enregistrer. C'était une porte de contrôle. Lorsqu'une armée revenait de la guerre ou d'une mission, elle passait par cette porte. C'est là que David inspectait les soldats qui revenaient du combat. Il aimait ses soldats, et ceux-ci l'aimaient. Plusieurs étaient prêts à mourir pour lui. Lorsqu'ils traversaient cette porte, David était là pour les remercier de leur service loyal et courageux. Oui, chers amis, nous comparaîtrons tous devant Dieu, certains devant le tribunal de Christ. Comme nous l'avons vu dans le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, au moment de l'enlèvement, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Certains affirment que cela sera merveilleux. C'est vrai. Mais savez-vous que ce jour-là, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ? Écoutez ce texte. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Ce n'est pas le même tribunal que celui du grand trône blanc mentionné dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Seuls des croyants seront présents au tribunal de Christ, car ce jugement est fait non pour condamner, mais pour distribuer des récompenses. Les croyants recevront des récompenses pour leur service chrétien. Vous ne comparaîtrez pas à ce tribunal si vous n'êtes pas sauvés. Vous serez récompensés selon le bien ou le mal que vous aurez fait. Sur cette base que Paul dit, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. En fait, Paul dit, « Je veux être zélé, car je devrais remettre un rapport au sujet de mon travail pour le Seigneur. Je devrais lui dire si j'ai fait des journées complètes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. » Selon la loi, les Juifs devaient consacrer une seule journée à Dieu. Mais le Seigneur dit qu'importe ce que nous faisons, nous devons le faire pour sa gloire. Qu'importe si nous lavons la vaisselle ou si nous creusons un fossé, un jour le Seigneur examinera comment vous avez vécu sur cette terre. La porte de Mifkad est une image de cela. David connaissait ses hommes de guerre et ce qu'ils avaient fait. De temps à autre, il remettait une récompense à un homme valeureux. De nombreux chrétiens méconnus seront récompensés au tribunal de Christ. Nous pensons que les pasteurs, les missionnaires, les anciens et les enseignants seront plus récompensés que les autres. Cependant, je pense que les plus grandes récompenses seront remises à des chrétiens inconnus qui ont vécu pour Dieu pendant les temps difficiles d'aujourd'hui. Mifkad peut être une porte merveilleuse pour vous et moi un jour. L'idée d'y passer devrait nous amener à bien examiner nos vies. Verset 32. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Nous avons visité 10 portes, et nous sommes de retour à la porte des brebis. Nous avons fait le tour des murs de Jérusalem, et nous sommes revenus à notre point de départ. Rappelez-vous que la porte des brebis est une image de la croix de Jésus-Christ. Nous avons commencé par cette croix et nous terminons par elle. La croix de Jésus-Christ est la porte la plus importante. Le Seigneur Jésus a porté la peine de nos péchés pour nous. Alors que nous sommes de nouveau devant la porte des brebis, permettez que je vous raconte une anecdote qui est arrivée au docteur Mackay, un célèbre prédicateur écossais. Celui-ci avait été invité à prêcher à Londres. Après le service religieux, un jeune homme l'aborda. « Docteur Mackay, dit-il, j'aimerais m'entretenir avec vous un moment. »« Je dois prendre le train, répondit Mackay, mais si tu veux m'accompagner, nous pouvons parler en marchant vers le métro. » Tout en marchant, le jeune homme dit, « Je ne trouve pas clair ce que vous dites au sujet de mettre sa confiance en Jésus-Christ. » Le docteur Mackay lui expliqua de nouveau le plan du salut, mais le jeune homme lui dit, « Je regrette, mais je ne peux pas affirmer que je comprends au point d'avoir l'assurance de mon salut. Le message ne passe pas. » Le prédicateur écossais entendit son train arriver, et il demanda au jeune homme s'il avait une Bible. « Non, » répondit celui-ci. Alors le docteur Mackay lui tendit sa Bible et dit, « Prends la mienne. Trouve et lis Ésaïe chapitre 53, verset 6. Lorsque tu arriveras au premier tous, incline-toi et continue à lire. Lorsque tu arriveras au tous suivant, lève-toi bien droit et tu comprendras. » Le jeune homme prit la Bible et le prédicateur sauta dans son train. Le jeune homme regarda la Bible, se demandant pourquoi le pasteur lui avait demandé de faire cela. Il se rendit sous une lumière dans la rue et ouvrit la Bible au verset d'Ésaïe, chapitre 53, verset 6. « Que m'a demandé le docteur Mackay ?» Il a dit « de m'incliner au premier tous. » Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Le jeune homme trouva que cela le décrivait bien. Il poursuivit sa lecture. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il fut embêté sur le coup. « Ah oui, » pensa-t-il, « je dois me tenir droit. Je vois maintenant. Je dois faire confiance à Jésus-Christ. L'Éternel a fait retomber sur lui tous mes péchés. Maintenant, je peux me tenir droit. Il m'a tout pardonné. » Le lendemain soir, le docteur Mekai arriva tôt et s'assit sur l'estrade, gardant un œil ouvert pour le jeune homme. Le service débuta. Il n'avait pas encore aperçu le jeune homme. Le docteur Mekai désirait revoir sa Bible. Finalement, il vit le jeune homme entrer, et le docteur Mekai alla au-devant de lui afin de récupérer sa Bible. « Jeune homme, lui demanda-t-il, as-tu fait ce que je t'ai dit? » Il répondit, « Oui, je l'ai fait. J'ai lu Ésaïe 53, verset 6, jusqu'au premier tous, et je me suis incliné pour me relever au deuxième tous. » « Que s'est-il produit? » « Je sais que Jésus est mon sauveur, » répondit le jeune homme, « et j'ai placé toute ma confiance en lui. » Mes amis, nous commençons à la porte des brebis et nous revenons à la porte des brebis. Pendant l'éternité, nous parlerons de la porte des brebis, là où Jésus est mort pour nos péchés il y a plus de 2000 ans. Notez que Néhémie n'a pas travaillé sur un segment de la muraille. Malgré cela, il a travaillé plus que tous. Il supervisait ce projet grandiose. La moitié des serviteurs de Néhémie participaient à la construction, là où on avait besoin d'aide. Et l'autre moitié monta la garde après que l'attaque qu'avaient planifiée les ennemis de Dieu échoua. En effet, quelques peuples sous la direction de Sanballat et Tobija voulurent attaquer Jérusalem pour faire cesser les travaux. Nous verrons ces détails de cet épisode au chapitre 4. Un pilote comme Néhémie n'a pas besoin de tirer les câbles, car tenir la barre pour gouverner le bateau est déjà tout un travail. Reconstruire la muraille d'une ville avec l'opposition de gouverneurs et de gens influents dans le gouvernement n'est pas une tâche facile. Seulement la planification des travaux est une tâche ardue en elle-même. Cependant, lorsqu'un projet vient de Dieu, il dispose les cœurs et il pourvoit aux besoins du projet. C'est ce qu'il fit en disposant le roi à autoriser la reconstruction des murs de Jérusalem. De plus, le roi et ses grands firent des dons en or et en argent pour le projet. Des gens de tous les milieux sociaux s'unirent afin de construire la muraille. Nous avons noté entre autres que des sacrificateurs, des orfèvres et des parfumeurs travaillèrent ensemble. Des familles vinrent construire un segment du mur. Des gens vinrent des villes avoisinantes. Lorsque Dieu est derrière un projet, il pourvoit, dispose les cœurs et ouvre les portes. Nous avons vu toutes ces personnes de divers milieux se lever d'un même cœur pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Malheureusement, d'autres ne se sont pas avancés. Seuls les chefs des Técoïtes sont mentionnés. Mais il y en a eu sûrement d'autres. Nous verrons plus loin que Sanballat et Tobija donnaient des pots de vin à des conseillers pour entraver et arrêter le projet de construction. Ces personnes mettaient leurs intérêts personnels avant Dieu. Qu'en est-il de vous dans votre église locale, dans votre milieu chrétien? Contribuez-vous à l'œuvre de Dieu? L'avez-vous à cœur? Ou êtes-vous de ceux qui l'entravent par des critiques négatives continuelles? Bloquez-vous des projets parce que vous tenez à votre poste sur le conseil d'une église ou d'une organisation, mais que vous n'avez pas assez confiance en vous pour entreprendre les projets proposés? Écartez-vous de votre assemblée des personnes douées parce que vous vous sentez menacé en leur présence? Chers amis, ceci est de l'orgueil. Ayez la bonne attitude envers Dieu. Prochaine émission, Néhémie chapitre 4, versets 1 à 23.
Merci, Régent. Ça m'a particulièrement frappé quand tu as mentionné le tribunal de Christ qui est décrit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 10, versus le grand trône blanc mentionné dans le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse, des versets 11 à 15. Je suis surtout bien heureuse de savoir que je n'aurai pas à passer devant ce grand trône blanc. Permettez-moi de vous lire dans ce 20e chapitre de l'Apocalypse des versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mes amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'être certaine de ne jamais avoir à passer par là. Et croyez-moi, ce n'est pas à cause de mes mérites, mais à cause des mérites seuls de Jésus, en qui j'ai mis toute ma confiance pour le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Par contre, je vais passer devant le tribunal de Christ avec tous ceux qui auront mis leur confiance en Jésus seul pour être sauvés de cet étang de feu et pour être certains d'aller au ciel un jour. Mais au tribunal de Christ, je sais toutefois que tout ce que j'aurai fait et tout ce que je n'aurai pas fait sera jugé pour que je reçoive des récompenses. C'est pourquoi je m'efforce de ne pas en perdre une seule. Et quand je pense au moment où j'en ai perdu, soit par manque de sagesse ou pour d'autres raisons, je dois avouer que ça m'attriste un petit peu. Mais Dieu est gracieux et il continue à me donner plein d'opportunités de le servir. C'est sûr que mon but primordial en servant Dieu, ce n'est pas les récompenses qu'il y aura au bout, mais la reconnaissance que j'ai dans mon cœur du fait que Dieu a donné son Fils, qui est mort sur la croix, pour payer la dette de mes péchés, afin que je n'aie pas à subir cette condamnation que je mérite, mais qu'au contraire, je puisse passer l'éternité avec Dieu, dans son beau royaume, là où Jésus est en train de me préparer une place. Mon ami, qu'est-ce que tu préfères? Le grand trône blanc ou le tribunal de Christ? La condamnation éternelle ou la vie éternelle? Dieu t'en donne le choix, en ce moment. Tu pourrais prendre la décision la plus importante de toute ta vie. Dieu ne veut pas que tu passes en jugement pour la condamnation éternelle. Il t'offre la vie éternelle maintenant. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse. Place ta confiance en Jésus pour le pardon de tes péchés. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et tu vas vivre une vie abondante sur cette terre. En attendant, de revêtir ton domicile céleste, là où tu vas recevoir des récompenses pour les œuvres que tu auras accomplies en tant qu'enfant de Dieu. Tu seras dans la joie auprès du Seigneur et il t'a promis que cette joie serait éternelle. Pense-y, mon ami.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.